Léonard de Vinci rencontre les philosophes, aujourd'hui la Vierge au rocher. La parole est à Léonard de Vinci à travers la voix de Michel Bouquet.
Ô spéculateur des choses, ne te flatte pas de comprendre ce que la nature exprime véritablement en soi. Mais contente-toi de connaître les fins apparentes de ces choses qui sont reflétées en ton esprit.
Vinci, phénoménologue, et pourquoi pas ? La vérité n'est pas dans la nature, mais dans la manière qu'a cette nature de se refléter dans notre esprit. Pour le comprendre, le philosophe Thibaut Grèce et l'historien de l'art Guillaume Casgrain vous emmènent dans une grotte, sur les traces de Léonard de Vinci, peut-être la grotte où se tiendra plus tard la Vierge au rocher, peinte par le maestro.
Entraîné par ma frénésie de connaître et par le désir de contempler le grand amalgame des formes disparates et étranges assemblées par l'artificieuse nature, j'avançais entre des rochers pleins d'ombre. Ainsi, je parvins à l'entrée d'une grande caverne devant laquelle le dos arqué, la main là s'appuyait à mon genou, la droite abritant mes paupières baissées et presque closes, je me penchais à plusieurs reprises de côté et d'autre, en essayant de faire pénétrer mon regard à l'intérieur. Cela m'étant défendu par la grande obscurité qui régnait dans la grotte, je demeurai longuement immobile, agité par deux sentiments opposés, peur de la sombre spélonque menaçante, désir de savoir si au fond d'elle ne se cachait quelque chose de miraculeux et d'inconnu.
Bonjour Thibaut Grèce.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Casgrain.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. C'est avec vous qu'on va parler de la Vierge au rocher, enfin la Vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste et un ange, dite Vierge au rocher. L'œuvre de Léonard de Vinci qu'on a du mal à dater, on dit entre 1483 et 1508, le spectre est très large. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. On a commencé avec Léonard de Vinci dans une grotte. Léonard de Vinci, donc, à travers la voix de Michel Bouquet, avec cette réflexion qui vient de ses carnets. Hein. C'est à la fois la peur de l'obscurité et le désir de connaître si quelque chose de miraculeux s'y cachait, c'est une bonne manière de caractériser le geste même de Vinci et son travail de l'ombre dans laquelle peut-être se loge une lumière ou en tout cas un invisible qu'il essaye de faire apparaître, Thibaut Grèce.
Oui, alors on est d'emblée dans la question fondamentale, c'est-à-dire le rôle des ombres chez Léonard de Vinci. Il est très intéressant de dire que l'ombre est à même le monde. Il la trouve dans la grotte, il la trouve dans un élément qui est matériel. C'est-à-dire, d'emblée, l'ombre n'est pas spécialement symbolique. C'est d'abord et avant tout une présence sensible à laquelle il a affaire. C'est un élément matériel du monde. Et donc, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout similaire à ce qu'on a connu à Florence un siècle avant. C'est-à-dire, à quelque chose où le symbole écraserait complètement la réalité. Par exemple, chez Frangelico, l'ombre va renvoyer à l'autre de la lumière et va donc avoir une portée symbolique. Par exemple, elle pourrait signifier l'Ancien Testament, qui est une sorte de préfiguration ombragée de ce que le Nouveau Testament apporte. Donc on est d'emblée dans une sorte de déréalisation matérielle de l'ombre chez Frangelico qu'il n'y a pas chez Léonard. C'est d'abord et avant tout une présence qui nous envahit et dont on va essayer de sonder la présence matérielle pour essayer d'y trouver un sens.
Thibaut Grèce, vous enseignez la philosophie en Cagnes au lycée Blomet. Vous étiez déjà venu à ce micro nous parler de Descartes à plusieurs reprises. Mmh. Et c'est la première fois que vous venez nous parler de peinture. Ça veut dire que vous avez travaillé aussi sur la peinture en philosophie, n'est-ce pas?
Oui, j'avais travaillé en thèse de doctorat sur la question, disons sur le problème de savoir comment on peut parler philosophiquement de la peinture sans perdre la spécificité justement du geste de peindre. Et donc, c'était une manière pour moi d'essayer de montrer que l'iconographie, quoique apportant des connaissances indubitables à bien des égards, ne rendait pas totalement justice peut-être à la complexité des œuvres picturales, puisqu'elle réduit, elle a tendance à réduire en tout cas l'œuvre à une image, c'est-à-dire à une histoire qui raconte un sens, alors que je pense qu'en amont même de l'histoire, dans la composition plastique, dans l'espace, la lumière, la couleur, se joue une dimension philosophique. C'est-à-dire que si par exemple on décide de produire un espace où on a ce qu'on appelle une composition, c'est-à-dire une systématicité des relations entre les éléments, on a fait un choix qui est à mon sens philosophique et qui refuse par exemple le cadre aristotélicien où on a des lieux qui sont juxtaposés en dehors de toute systématicité. Donc j'ai essayé de rendre justice, disons, à la dimension philosophique des choix plastiques dans l'espace, la lumière et la couleur pour les peintres italiens de la Renaissance.
Voilà, donc on verra comment ça s'applique au tableau du jour. Guillaume Casgrain, vous êtes historien de l'art.
Oui.
Quelle place tient Vinci dans votre amour pour l'histoire de l'art ? en particulier.
J'ai cru que j'allais me demander quelle place tenait la philosophie dans mon travail d'historien.
Non, je ne vais pas tout mélanger. Enfin, je peux vous poser la question si
Oui, oui, parce que c'est intéressant cette distinction que l'on peut faire entre histoire de l'art et philosophie, qui a été souvent le fait d'ailleurs des historiens de l'art, qui voulaient défendre leur précaré contre les autres sciences humaines. Et je pense que c'est une erreur et que l'histoire de l'art est à la limite de toutes les disciplines de sciences humaines ou sciences sociales et que la philosophie a évidemment beaucoup à dire et a dit beaucoup d'ailleurs sur les œuvres d'art et quelquefois même beaucoup mieux que les historiens de l'art.
Ah oui?
Oui. Je pense que les historiens de l'art que je trouve intéressants ou importants sont souvent des historiens de l'art qui se sont inspirés ou formés à la philosophie. Je pense à Hubert Damisch. Notamment, mais bon, même les grands historiens de l'art du début du XXe siècle étaient des grands humanistes, donc avec une formation philosophique très importante. Les Allemands, Panofsky notamment, connaissaient, enfin étaient formés par Cassirer. Voilà, donc distinction là ne devrait même pas exister entre philosophie, histoire de l'art. Malheureusement, dans l'enseignement universitaire, c'est ce qui se passe.
C'est le cas de toutes les disciplines en même temps.
Oui, mais c'est
la
dommage. Ça empêche les dialogues. Alors, c'est très bien qu'on puisse dialoguer comme ça autour de Léonard, qui est un artiste qui est évidemment aussi philosophe.
Et vous avez soutenu votre thèse sur la direction de Daniel Arras.
Voilà.
Thèse qui a été publiée l'an dernier chez Actes Sud. Daniel Arras, que vous tenez pour un historien de l'art philosophe?
Enfin, je l'admire beaucoup. Hein. Avec la distinction que je viens d'opérer, je voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Non, c'est que j'hésite parce que Daniel Arras était très soucieux de ce statut d'historien de l'art. Il attachait beaucoup d'importance à la part historique. Donc, je pense que il accordait aussi beaucoup d'importance à la philosophie, mais lui se revendiquait comme un historien de l'art. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir une grande attention, par exemple, à des interprétations phénoménologiques, ou, notamment pour son Léonard, qui est un des grands livres sur Léonard.
Quand on vous a proposé de choisir un tableau dont vous aimeriez venir parler, Thibaut Grèce, vous avez choisi La Vierge au Rocher. Pourquoi ce tableau en particulier?
D'une part parce qu'elle est à Paris, non elle est en France, donc c'est assez facile d'aller la voir au Louvre et de l'admirer. D'autre part parce que c'est un tableau qui est assez complexe, il en existe deux versions, une autre version est à Londres, à la National Gallery. Et puis enfin, on a dans ces tableaux-là de multiples dimensions. On a des problématiques qui sont liées véritablement à la composition de l'œuvre, qui sont liées à l'utilisation de la lumière et de la couleur. On a des choix de perspectives qui sont extrêmement intelligents et subtils. On a une iconographie qui est étrange, puisque la scène qui est représentée ne provient pas du Nouveau Testament, elle provient d'un apocryphe, on en parlera peut-être tout à l'heure. On a un ange qui n'est pas habituel, qui est sans doute l'ange Uriel, qui est un drôle d'ange. Donc il y a tout un tas de raisons qui contribuent à faire de cette œuvre une œuvre extrêmement étonnante, intrigante même à bien des égards, et par ailleurs admirable du point de vue esthétique.
Alors on va essayer de la décrire pour ceux qui ne l'ont pas forcément sous les yeux, même si je recommande aux auditeurs qui nous écoutent de la regarder en même temps, parce qu'on va en proposer une description assez précise. Il y a quatre personnes présentes sur ce tableau. Une femme qui se tient au centre avec la main gauche qui se lève et qui semble protéger l'enfant qui est en dessous. Il y a deux enfants, l'un à gauche qui est à genoux en position de prière, un autre à droite qui lui aussi lève les doigts, comme on est habitué de voir le Christ qui lève les doigts de cette façon-là, et enfin une femme à la droite qui, elle, regarde alors peut-être vers l'enfant, peut-être vers nous. On parlera de ce jeu de regard si important chez Vinci. Et puis, surtout, presque, ce qui justifie le début de cette émission, des rochers, on voit presque des cascades. Alors, grottes peut-être pas, mais on est dans un univers extrêmement minéral. Et on sait chez Vinci l'importance à la fois des personnages représentés, mais aussi des fonds, des arrière-plans, des décors, etc. Que ce soit la Joconde, dont on a parlé lundi, ou la Sainte-Anne, dont on a parlé mardi. Il y avait ce décor fait de montagnes qui pouvaient ressembler à des nuages. Ici, ces rochers occupent la moitié du tableau. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? Alors, je ne sais pas qui veut commencer à en dire deux mots, ou peut-être apporter une correction à la présentation que j'en ai faite. Guillaume Casgrain.
Correction, je ne sais pas, mais vous avez évité, évidemment...
Ah voilà, j'ai évité le trou.
Ah non, le trou, oui, évidemment.
Je n'ai pas dit qu'il y avait un trou au premier plan.
Il y en a beaucoup, c'est une œuvre étonnamment trouée. Bon, on en redira quelque chose pendant tout à l'heure, mais non, je disais que la description c'était bien gardé d'être iconographique. C'est-à-dire que vous avez parlé des personnages sans les identifier.
Exactement. Donc, ah oui, c'était une perspective phénoménologique. Je dis ce que je vois.
Voilà. Mais c'est intéressant parce que ce tableau-là, malgré sa simplicité, puisque c'est pas une iconographie extrêmement complexe, il n'y a pas de personnage très difficile à identifier, même par votre description, je pense que les auditeurs ont compris de quoi il s'agissait.
Mais alors, dites-nous.
Saint Jean-Baptiste et l'enfant Jésus, la Vierge et un ange, quelle que soit l'identité qu'on puisse lui donner. Une scène qu'on a déjà vue mille fois dans la peinture de l'époque. Et pour autant, c'est une composition qui pose problème lorsqu'on cherche à la décrire précisément, parce que il peut y avoir un trouble, alors sur la Vierge sans doute pas, mais sur Saint Jean-Baptiste et le Christ, puisque dans la première version du Louvre en tout cas, Léonard s'est passé des attributs classiques qui nous permettaient d'identifier très clairement les figures. Ce qu'on voit réapparaître dans la seconde version de Londres, où Saint Jean-Baptiste a la croix qui lui permet d'être plus clairement identifié. Dans la version de Paris, c'est plus délicat. Et même avec les attributs de Londres, on peut aussi se poser quelques questions, parce que on voit ça souvent dans la peinture du Nord, de l'Italie du Nord, des échanges d'attributs entre le Christ et Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste tend sa croix... Donc, y a une possibilité de trouble dans l'identification des personnages.
Thibaut Grèce, voulez-vous apporter une correction à la description du tableau ou un complément ?
Plutôt un complément, sans doute. La scène ne figure pas dans le Nouveau Testament. C'est une scène qui vient du protévangile de Jacques, qui est un apocryphe. Donc, on ne rencontre nulle part dans le Nouveau Testament une scène dans laquelle le Christ enfant et Jean-Baptiste enfant se rencontreraient. Dans le texte apocryphe de Jacques, je crois que c'est après le massacre des innocents. Donc c'est une fuite en Égypte via le désert. Et donc, on estime que la scène aurait lieu dans le désert. Et il y a un certain nombre de discussions pour savoir si Léonard imagine que le désert est en fait plein de grottes. Ou si, au contraire, il y a une valeur symbolique de la grotte comme telle. C'est assez compliqué d'y répondre. Et on a par ailleurs donc un ange, vous aviez... mentionné tout à l'heure le fait que c'était un personnage féminin qui a servi de modèle. Alors c'est sans doute Uriel. Uriel, c'est un archange extrêmement important dans la dans l'angéologie. On le trouve chez Denis, l'Aréopagite, qui avait construit une angéologie vers le 5e siècle après Jésus-Christ. Et c'est un personnage très ambigu qui a un doigt, un index démesuré, qui pointe vers Saint Jean-Baptiste et qui, dans la tradition chrétienne, est souvent associé à Saint Jean et donc qui peut-être justifierait ainsi sa présence, sachant qu'il apparaît aussi dans le protévangile de Jacques. Donc on a tout un tas de raisons qui permettent de penser qu'il s'agirait d'Uriel, qui est par ailleurs associé à l'été. Et peut-être qu'il y a un jeu de mots ou une ambiguïté sur Saint Jean, Saint Jean-Baptiste et la fête de Saint Jean de l'été. Donc il y a tout un tas de glissements comme ça qui permettent éventuellement de penser qu'il s'agirait bien d'Uriel.
Alors maintenant que ces éléments iconographiques vous ont permis d'identifier les personnages, voici une idée du type de réaction que cette œuvre avait pu susciter à l'époque.
Un sacrilège, maître Léonard. Un sacrilège.
Vous me surprenez, frère Agostino.
Vous avez enseveli la Madone sous un amas de rochers dans les entrailles de la terre.
C'est une femme comme une autre.
Comme une autre. Dans une caverne. Savez-vous qui on place dans les cavernes, maître Léonard ? Lucifer. La mère de Dieu, enfermée dans un endroit digne du diable.
Mais bien entendu, frère Agostino, toute la souffrance du monde s'alourdit sur la tête de Marie et de son fils. La méchanceté des hommes, l'inexorabilité de la nature les menace. Elle regarde l'enfant. Sa main est crispée. Cet enfant, qui ignore encore tout de la tragédie qui le guette. Mais l'ange fait un geste vers le fond. Au-delà de la paroi sombre qui enferme et brise l'espérance, très lointain, inaccessible, un lambeau de ciel. N'entendez-vous pas sa musique ?
Je n'entends rien. Je vous donne un conseil. Traitez plutôt des sujets profanes. Le sacré ne se plie pas aux lubies.
France Culture. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett.
Alors, sacrilège ou pas, Guillaume Casgrain ?
Non, ça certainement pas, mais problème, visiblement. Parce que...
La version païenne du sacrilège, c'est le problème.
Oui, non, mais sacrilège, ça laisserait entendre que Léonard veut combattre une orthodoxie religieuse, ce qui n'est pas du tout le cas chez lui. Et pour revenir un peu à ces questions iconographiques qu'on a abordées tout à l'heure, il ne faut pas perdre de vue aussi que Léonard est... Malgré son activité de philosophe, de chercheur, éventuellement de scientifique, même si le terme est un peu maladroit pour l'époque, faut pas oublier qu'il n'a pas non plus une culture monumentale. Hein.
Il se présente comme non lettré d'ailleurs.
Voilà, oui. Il c'est pas un artiste intellectuel comme l'est Michel-Ange. Oui. Donc il a une connaissance de cette iconographie qui passe aussi avant tout par les tableaux qu'il a connus. Donc les saintes familles, les utilisations de Saint-Jean-Baptiste avec la Vierge à l'enfant, bon, il en a vu beaucoup. Et il n'a pas besoin de retourner à un texte source qui lui permettrait de faire le lien entre Saint-Jean-Baptiste et le Christ. Donc le sacrilège n'existe pas, mais il y a un problème visiblement puisque cette peinture a été refusée. C'est pour ça qu'il y a la deuxième version de Londres.
Alors, refusée par qui?
Par l'ordre des franciscains de Milan. C'était une église qui était destinée à une chapelle dans San Francesco Grande. Au moment où il y avait un débat, ça durait depuis quelques temps, mais autour de l'Immaculée Conception. C'était une chapelle qui devait être dédiée à l'Immaculée Conception avec des corps à fresques et puis, visiblement un retable qui aurait accueilli en son centre ce tableau-là. Donc une œuvre importante, une commande décorative importante, et aussi symboliquement, puisque les franciscains voulaient défendre cette Immaculée Conception qui a posé quantité de problèmes à l'Église romaine, puisqu'il faut attendre la fin du 19e pour que ça devienne effectivement un dogme. Donc il y a des querelles permanentes, notamment entre les ordres franciscains, dominicains, sur cette question de l'Immaculée Conception. Donc le tableau avait cette fonction, visiblement, de défendre l'Immaculée Conception, l'idée ce qui deviendrait le dogme de l'Immaculée Conception. Et c'est dans l'attente de cette efficacité rhétorique que les franciscains ont été déçus. Et donc ils ont refusé le tableau. Alors, c'est pour ça que vous donniez les dates très longues ou très difficiles à établir. Donc
Parce qu'il y a plusieurs versions, en fait, c'est pour ça.
Voilà.
1483 jusqu'à 1508.
Voilà, peut-être même une troisième version qui aurait été faite. Donc il y a une recherche et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir une copie, c'est-à-dire qu'on fait deux fois la même chose et on essaye d'arranger à la marge ce qui n'a pas plu au commanditaire, ce qui arrive souvent, hein, le commanditaire n'est pas satisfait, donc refuse. Après, il y a eu une dizaine d'années de problèmes de paiement. Léonard réclamait le paiement effectif. Oui, c'était pas comme ça que les franciscains imaginaient un tableau censé célébrer l'Immaculée Conception.
Il faut dire, Thibaut Grèce, que ce tableau, y compris dans l'œuvre de Vinci, représente quelque chose d'absolument novateur, ne serait-ce que par la composition.
Oui, alors je me permets de rebondir sur un point qui est très important, qui vient d'être dit. Léonard a en effet un côté autodidacte. Ça n'est pas du tout un peintre qui connaît très bien la théologie, comme pourra plutôt la connaître Michel-Ange un peu plus tard. Et par conséquent, c'est quelqu'un qui, au gré de ses lectures ou de ses rencontres, va un petit peu... pas naviguer à vue, ce serait excessif, mais disons avoir peut-être plus de réceptivité que quelqu'un qui aurait été académiquement formé à des choses un peu étonnantes. Par exemple, on dit assez souvent qu'il a lu ou consulté un manuscrit de Mendes da Silva qui s'appelle Apocalypsis Noah et qui est en fait une lecture gnostique de l'Apocalypse et au sein de laquelle da Silva essaye de rendre magnifique le rôle de Saint Jean-Baptiste pour l'Immaculée Conception. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est une manière de glorifier le rôle de Saint Jean-Baptiste dans la question de l'Immaculée Conception, et il est fort probable que Léonard ait accordé crédit à ce genre de texte-là. Par ailleurs, oui, c'est quelque chose qui est assez étonnant du point de vue de la composition, puisque on a quelque chose qui est assez classique pour le coup, qui est une composition pyramidale qui se voit assez aisément, mais qui pourtant, par rapport aux œuvres
traditionnelle ne s'appuie pas sur une architecture qui permettrait de structurer l'ensemble et qui va en fait essayer de penser, si je puis dire, les personnages et les figures presque indépendamment d'un espace architectural qui lui donnerait un cadre. Et ça, c'est extrêmement virtuose et c'est relativement nouveau pour l'époque.
C'est-à-dire qu'on a l'impression que les quatre personnages sont complètement indépendants.
C'est-à-dire on a
le paysage dans lequel ils s'inscrivent.
C'est-à-dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le paysage rocheux n'est pas ce sur quoi on peut construire une perspective classique, c'est-à-dire une composition classique. C'est plutôt quelque chose qui va se trouver derrière les personnages, qui d'ailleurs n'enferment pas, contrairement à ce qu'on entend dans le film de tout à l'heure. Ouais. Ils ne sont pas enfermés au sein de la grotte, les personnages. On voit une partie de ciel en haut, en tout cas pour la version parisienne, mais ça n'est pas exactement quelque chose qui entre dans une relation directe avec les personnages. C'est plus un cadre à l'intérieur duquel ils se trouve, mais dont la composition n'est pas absolument évidente.
Alors pourquoi cette importance quand même s'il n'enferme pas, il y a comme un mur certes troué, mais un mur minéral, rocailleux, en arrière-plan. C'est assez étonnant, comme s'il y avait quand même la volonté de, alors soit de former une sorte d'écrin, soit au contraire d'enfermer ce que l'on voit.
On peut penser, compte tenu des écrits de Léonard, que d'une part il y a une fascination pour le monde minéral dont il fait des relevés avec une très grande précision, et puis d'autre part, on a chez Léonard, vous parliez de Daniel Arras tout à l'heure, vraiment l'idée d'une continuité entre les choses. Il n'y a aucune raison que les figures humaines soient dans une rupture absolue avec le monde naturel et avec le monde minéral en particulier. Et donc l'insertion des personnages au sein d'un cadre naturel, extrêmement précis d'ailleurs du point de vue du rendu, puisque Léonard fait régulièrement l'éloge des peintres qui savent rendre compte dans le détail de la réalité même de la nature, eh bien, dans la version parisienne, on a uniquement un monde minéral qui existe et qui est copié à partir de choses qui existent. Et donc, on a une continuité entre les personnages qui sont représentés, le monde naturel et minéral, et on a même, si l'on regarde bien l'œuvre en entier, on a évidemment quelque chose qui va relever de l'eau en arrière-plan. On a la terre, on a le ciel, on a tous les éléments qui sont représentés.
Pas de feu, si ?
Non, on n'a pas le feu.
On peut imaginer des éclairs entre les... Non, oui, il n'y a même pas de nuages, donc...
On peut imaginer peut-être le Saint-Esprit.
Voilà, c'est ça.
mais on a véritablement, si vous voulez, une réflexion sur les éléments et sur la continuité des éléments les uns avec les autres. Et ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que dans la version de Londres, alors je ne saurais plus vous dire exactement dans le détail de quelle fleur il s'agit, mais on s'est rendu compte que le rendu des fleurs était beaucoup moins fidèle à la réalité florale et que par conséquent, au moins le monde floral ne devait pas être de la main de Léonard. Donc l'attribution de la version de Londres, en partie pour cette raison-là, est douteuse, au moins pour le décor floral, pour Léonard de Vinci.
Guillaume Casgrain, est-ce que vous partagez la même analyse de la composition ?
Oui, parce que c'est ça qui est paradoxal et qui peut introduire autoriser des interprétations symboliques. Et comme toujours avec Léonard, vont très loin. Enfin, le mystère Léonard à chaque fois.
Insaisissable.
Oui, ça a fait beaucoup de mal à Léonard lui-même. Oui, parce que on peut plus le regarder. C'est-à-dire jusqu'au film hollywoodien. Mais c'est vrai que il est paradoxal parce que. Il cherche, notamment par son expérimentation du monde, c'est-à-dire il dessine tout ce qu'il voit, du plus petit au plus grand. Donc il y a une volonté qu'on pourrait dire naturaliste, et en même temps ce souci naturaliste débouche sur quelque chose de presque fantastique. C'est-à-dire que là où on est habitué à l'époque à avoir une vierge, soit dans un premier plan architecturé avec un dallage au sol qui permet de la situer clairement et derrière un paysage naturel, ou alors totalement incluse dans un paysage naturel avec un pré et à l'arrière-plan des montagnes, ce que devrait faire Léonard puisqu'il s'intéresse à cette nature, et il en fait tout à fait autre chose, ça devient une sorte d'inquiétante étrangeté qui provient d'un univers familier, la nature, les rochers, les fleurs, et qui devient presque inquiétant ou menaçant. Et notamment par le fait qu'il réduit ce décor soi-disant naturel à un avant-temps de l'humanité, puisque comme pour la Joconde, il n'y a absolument rien d'une présence humaine dans le paysage. Comme on le voit souvent à l'époque.
Au contraire, parce que la Joconde, je crois qu'on avait trouvé un village et un pont, en tout cas, voilà, c'est sûr. Alors que là, vraiment,
là, y a rien,
aucune intervention humaine.
Alors que c'est très fréquent dans la peinture de l'époque de voir des bergers, une église, qui peuvent d'ailleurs être des éléments qui soutiennent l'iconographie principale. Là, absolument pas. C'est-à-dire, c'est une nature qui n'a pas été touchée par la main de l'homme. Et les formes des rochers semblent provenir d'un mouvement naturel du monde, sans que l'homme y ait sa part, jusqu'à même, je trouve, laisser entendre ou suggérer des présences anthropomorphes à l'intérieur des rochers. Donc,
oui, ce qu'on voit au-dessus des fantômes un peu. Oui.
Ouais, au-dessus du visage de la Vierge, comme s'il y avait un front, un nez, ce qu'on voit aussi dans d'autres peintures, pas forcément des Léonard. Et cette grande ouverture à gauche, qui pourrait ressembler à une sorte de bouche.
Il y a quelque chose de très inquiétant quand même dans ce fond, dans ces rochers.
Ah oui,
c'est très sombre, c'est presque menaçant.
C'est pour ça que je parlais d'inquiétante étrangeté. L'Unheimlich de Freud, c'est une nature, quelque chose que l'on connaît, qui est familier, qui tout d'un coup devient inquiétant par le traitement qu'en propose Léonard, et notamment par le fait qu'il n'y a pas de présence humaine, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de représentation utopique du monde, un autre temps que l'on n'a pas connu, que les hommes n'ont pas connu, et un basculement de l'espace naturel. Comme l'a très bien dit Thibaut Grèce tout à l'heure, il y a de la profondeur naturelle par ces évolutions d'ombre. On voit bien qu'il y a un arrière-plan et un premier plan, mais la masse rocheuse fait que ça verticalise l'ensemble du tableau. Et ça le fait basculer jusqu'au point de menacer presque le Christ, qui est, si on regarde bien, au bord d'un gouffre.
Qui lui-même est au premier plan. Voilà. Comme si le gouffre séparait les personnages de nous autres spectateurs.
Il a la main posée, ce qu'on voit aussi dans la version anglaise. Il a la main posée, la main gauche posée au bord d'un vide. Ce qui est très très étrange pour une composition qui doit être instable. Parce que vous avez aussi le fait qu'il place l'enfant Jésus plus bas que Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste domine. Voilà. Donc il y a une instabilité dans une composition qui est en apparence est stable ou devrait être stable.
Et c'est peut-être là la dimension sacrilège dont vous parliez tout à l'heure, puisque le Christ n'est manifestement pas l'élément central du tableau. L'ange Uriel indique Jean-Baptiste, le Christ est en effet dans une position instable, à deux doigts de basculer dans le précipice. Donc en effet, il y a une manière de destituer la centralité du Christ qui est tout à fait sidérante. Et je crois que c'est en partie pour cette raison-là que l'œuvre a été refusée dans la première version.
Alors on a parlé cette semaine en tout cas beaucoup de la technique vincienne, du sfumato, du clair-obscur, le travail sur les contours qui sont brouillés, etc. On a peu parlé, ce tableau nous invite à le faire, de la perspective, les différents types de perspectives qui sont à l'œuvre dans cette toile. Voici comment Léonard lui-même en parle.
Un peu de terre de sienne, je te prie. Merci.
Cette vierge au rocher à laquelle vous travaillez, maître, je ne la connaissais pas.
Elle était au grenier. Il est bon de laisser reposer.
C'est lointain. Cette profondeur...
Ah, la perspective. N'oublie pas que la netteté des choses doit diminuer en fonction des distances et dans la même proportion que la netteté des couleurs. Note également qu'à travers la pluie, le contour des objets est plus net à l'ombre qu'au soleil.
Éviter la dureté des contours n'est pas facile.
D'autant que le bord des ombres sur un corps jaune doit être léger et transparent comme l'air. Quand tu places ta main dans un rayon de soleil, la lumière ne traverse-t-elle pas tes doigts?
Et ces dégradés, comment les obtenez-vous?
Grâce à cette petite cuillère. Une invention à moi qui me permet de doser avec une exactitude mathématique la quantité de couleur nécessaire pour rendre tous les passages de la lumière à l'ombre. Si, par exemple, pour obtenir une certaine ombre, il faut 10 cuillères de noir. Eh bien, pour parvenir au degré suivant, tu en prendras 11, puis 12, et ainsi de suite.
Et ces nuages, ces effets de soleil et de pluie.
J'interroge les voyageurs qui ont vu des typhons, des ouragans, des tremblements de terre. Moi-même, à chaque occasion, je regarde.
Comment apprendrai-je tout ce que vous savez?
Plus j'apprends, plus je découvre que je ne sais rien.
France Culture,
Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett.
Léonard qui devient Socrate le temps d'une seconde. Alors derrière le côté narratif et romanesque de ce qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose de véridique. C'est entièrement inspiré des carnets de Léonard dans lesquels on trouve les secrets de techniques de fabrication que livre Vinci de son propre travail. Et il dit bien en effet que pour créer cette forme de perspective, alors on va venir aux différentes perspectives, c'est une perspective aérienne dont il parle, il faut jouer des différentes teintes. Plus on met de bleu, plus ce bleu-là va paraître proche. Moins on en met, plus il paraît loin. C'est là quelque chose qui est propre aussi à la technique de Vinci, Thibaut Cresse.
Oui, ce qui est absolument fascinant, c'est la manière dont il refuse, disons, de créer des catégories isolées. Par exemple, il ne prend pas une couleur pour essayer de la penser indépendamment du milieu dans lequel la couleur va se trouver. Dans l'extrait entendu, il parle du typhon, il parle de la pluie, c'est-à-dire il prend en compte systématiquement le milieu à l'intérieur duquel il va devoir placer les éléments, à l'intérieur desquels il va devoir représenter un certain nombre de figures et les colorer. Donc il n'y a pas, si vous voulez, cette manière assez pourtant traditionnelle dans la peinture de son temps de catégoriser les choses et de les isoler les unes des autres. D'autre part, ce qui est très intéressant, c'est que au lieu de réduire la perspective à l'unité, c'est-à-dire d'essayer de trouver une théorie unique de la perspective, il va essayer de montrer qu'il y a différentes manières d'y parvenir, en jouant sur la diminution linéaire, en jouant sur le floutement des contours et en jouant également sur les couleurs et en pouvant les rendre pâles à mesure que l'éloignement doit être rendu. Et donc, c'est une manière, si vous voulez, d'élargir la question de la perspective à toutes les manières pour l'œil humain d'interpréter ce que c'est qu'une profondeur. Il n'y a pas qu'une seule manière, soit mathématique d'un côté, soit optique de l'autre. Il faut combiner tous ces éléments, il faut jouer sur différents éléments et ainsi montrer que tous les éléments sont dans une espèce d'interaction les unes avec les autres. Il n'y a pas de rupture dans l'espace de la représentation, il y a uniquement une continuité qui s'instaure et dont la peinture essaye de rendre compte en permanence. Et quand on regarde la Vierge au rocher, un des points extrêmement intéressants, notamment dans les rochers en profondeur, c'est que certains au lointain sont plus grands que ceux qui sont plus proches de nous. En revanche, il va jouer sur les couleurs, il va jouer sur le floutement des contours, et par conséquent, il va jouer avec la manière dont l'œil interprète tout cela. Ça n'est plus uniquement la diminution linéaire, c'est aussi la manière dont l'œil interprète un certain nombre de choses en fonction du milieu lui-même. Et donc c'est comme s'il y avait une espèce de, comment dire, d'a priori de l'œil qui sait comment interpréter un certain nombre de choses dans la représentation. Ce qui veut dire, si on va jusqu'au bout de l'idée, que finalement, entre la représentation picturale et la réalité naturelle, il n'y a pas de différence. Ce qui est vrai pour la perception de la réalité naturelle est vrai également pour la perception picturale. Et de ce point de vue-là, l'ultime continuité que Léonard introduit, c'est finalement entre la représentation et la nature.
Vous voulez dire que dans un paysage naturel, on retrouve les mêmes effets de perspective.
Exactement, et c'est en observant d'ailleurs autour des lacs la brume et les effets que cela occasionne sur l'œil qu'il a essayé de les transposer dans le cadre de la production picturale. Et de ce point de vue-là, ce qui est valable pour la perception naturelle et empirique n'a aucune raison de cesser de l'être pour la représentation picturale.
Mais c'est pour des raisons géométriques, finalement.
Non, c'est pour des raisons de fonctionnement oculaire. Et donc, il y a une manière, si vous voulez, universelle pour l'œil d'interpréter le milieu, tout simplement, dans lequel il se trouve, et qu'il va reproduire dans les différentes formes de perspectives picturales.
Est-ce que c'est ce qu'il appelle la perspective aérienne ?
Oui, ou atmosphérique. En l'occurrence, là, c'est la perspective atmosphérique qui est représentée. Absolument.
Guillaume Casgrain.
Oui, Léonard joue un très grand rôle dans ce basculement qui arrive, tout compte fait, assez tôt, mais dans la seconde moitié du XVe siècle en Italie, et qui voit certains artistes s'opposer à la théorie qu'on dit albertienne, parce que c'est Alberti qui l'a imposée dans un traité en 1435, qui s'appelle le De Pictura, où il établit comme une sorte de norme destinée aux peintres, une construction géométrique qui repose sur une perspective linéaire, généralement centrée, et qui permet à l'artiste de composer rationnellement son œuvre. C'est-à-dire que c'est un grand changement par rapport au XIVe ou au début du XVe siècle. Donc c'est pour ça qu'on voit la plupart des peintres du XVe utiliser des perspectives, des dallages au sol. Et Léonard est un des premiers, avec aussi Filippo Lippi, à contester ça, parce que ça ne fonctionne pas, comme le disait Thibaut Cresse, dans la réalité. Et Léonard part d'expérience et dit ben, « Moi, quand je vois un paysage, eh bien, ça fonctionne différemment de ce que cette géométrie mathématique nous impose. » Notamment le fait qu'il y ait un point de fuite unique. Ça veut dire qu'on part du principe que le spectateur est fixe devant l'œuvre, il n'a pas à bouger et il n'a qu'un œil. Donc Léonard dit le spectateur n'est pas un cyclope, il a deux yeux, il bouge, il peut aller et venir. Donc il faut essayer au contraire de rendre ces illusions d'optique qui sont certes fausses, mais qui rendent plus vraisemblable la composition, qui permettent peut-être plus de séduire le spectateur.
Ce qui est le but aussi.
Voilà. Parce que Léonard est un des premiers aussi à introduire cette notion de la grâce, la gratia, que reprend Raphaël par la suite, qui cherche à amadouer, séduire, s'accaparer la bonne volonté du spectateur. Alors que la perspective géométrique en passait simplement par une sorte d'argumentation philosophique, abstraite, qui n'engageait pas les sens ou la sensibilité du spectateur.
En fait, Vinci se met à la place du spectateur.
Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on voit dans L'Ange, parce que L'Ange est une reprise d'un personnage inventé, entre guillemets, par Alberti dans son De Pictura, qui est l'admoniteur. Alberti a bien compris que son système géométrique quelque peu abstrait, pouvait lasser les spectateurs. Et puisqu'il s'agit de peinture, il faut aussi que ça plaise. Donc il a dit, à l'intérieur de vos compositions, amis peintres, placez quelqu'un qui nous regarde depuis le tableau et qui nous invite à rentrer un peu plus dans la composition et du doigt nous désigne les personnages principaux.
D'où l'importance des doigts chez voilà. Léonard. On parle de Saint-Jean-Baptiste hier, là on a de nouveau, cette fois c'est l'ange qui pointe Saint-Jean-Baptiste.
Voilà. Ce qui a posé problème aussi visiblement aux franciscains, parce que ça a accentué encore plus le rôle de Saint-Jean-Baptiste et ça délaissait un peu le Christ. Parce que l'ange semblait indiquer que c'était Saint-Jean-Baptiste le plus important dans la composition, puisque c'est effectivement la fonction d'admoniteur. Et c'est pour ça qu'il disparaît dans la version de Londres. Il y a l'ange, mais il ne fait plus de signes. Donc il laisse le spectateur libre de regarder plutôt l'enfant Jésus que Saint-Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que je pense que le trou au premier plan qu'on a signalé tout à l'heure oui. est une sorte de fosse qu'on voit aussi souvent dans la peinture de Mantegna ou de Filippo Lippi. Et c'est un espace fictif, un creusement, c'est ça qui est très étrange. On évide la composition pour laisser une possibilité au spectateur de rentrer dans l'image.
Ou de s'y perdre.
Oui, il faudrait mieux pas qu'ils y perdent.
Vous parliez de gouffre. C'est vrai qu'on se demande comment on va passer de l'autre côté. Quand
mais
on
parce que c'est
ce
comme si on pouvait surgir dessous ce gouffre. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un espace dans lequel on pourrait éventuellement rentrer.
Comme au théâtre,
rentrer.
Une trappe, voilà, on rentrerait voilà. sur scène.
Voilà, une fosse. Et vous avez des peintures de l'époque qui montrent des donateurs coupés par le cadre et qui regardent depuis ce bas la composition. Donc le gouffre peut être une solution qui encouragerait cette communion avec le spectateur.
Vous avez une vision optimiste du gouffre.
vaut mieux ça que penser que l'enfant Jésus y tombe.
Thibaut Grèce.
Oui, peut-être pour reprendre un point, je crois que chez Alberti aussi, en fait, l'œuvre est pensée à partir du spectateur, mais c'est pensé à partir d'un spectateur abstrait, comme vous le disiez très bien, c'est-à-dire une espèce de cyclope, une perspective monofocale, comme s'il n'y avait qu'un seul œil, exactement, une seule position possible. Léonard pense l'œuvre à partir de la mobilité du spectateur et de la réalité naturelle du spectateur qui a évidemment une vision à deux foyers. Donc on a une prise en compte de la naturalité du spectateur, de sa mobilité, et qui va être quelque chose de très novateur dans la possibilité de comprendre la complexité de la perspective, c'est-à-dire de la complexité au sens naturel du terme, et non plus au sens d'une construction géométrique abstraite.
Mais quand on insiste autant sur l'œil, donc sur la perspective, est-ce qu'on ne réduit pas une certaine dimension de la peinture en général, et surtout celle de Léonard de Vinci, qui est aussi sensorielle ? Tout n'est pas, parce que là, l'œil est ici le vecteur de l'intelligibilité, comme chez Platon, comme en philosophie. L'œil, c'est la vue, c'est l'intelligence. La peinture de Vinci ne s'adresse pas qu'à l'intelligence. On pense à ces corps qu'on a envie de toucher, à cette chair qui est hautement érotique. Les sens sont en émoi face à une toile de Vinci.
Mais justement, c'est par la vue que la beauté du monde se révèle pour Léonard.
Oui, donc c'est la vue qui transmet l'information aux autres sens. Oui.
C'est la vue qui permet d'accéder à la beauté du monde et c'est par elle que par la suite l'intellect pourra prendre le relais. Mais la beauté du monde se manifeste d'abord et avant tout à la vue. Là, c'est quelque chose qu'il ne cesse de dire dans tous les écrits et même dans le traité de la peinture.
Mais c'est une vue érotique quand même, oui, ouais. Beaucoup moins abstraite que celle qui était vantée par Alberti. Parce qu'Alberti choisit justement un œil volant comme emblème, qui part au-devant de nous pour rentrer dans ce monde fictif et nous rapporter des informations en quelque sorte. Mais c'est un œil philosophique, abstrait. Chez Léonard, il y a par cette notion de gratia, il y a aussi une capacité érotique de l'œil. Donc le sfumato fait partie de ces artifices, c'est-à-dire qu'on ressent les textures, l'éloignement, c'est-à-dire que on ne l'analyse pas. Vous voyez. Dans une construction mathématique, c'est parce que on va pouvoir analyser la distance qui nous sépare d'un personnage qu'on pourra dire certaines choses. Là, on perçoit, on ressent une profondeur, une rugosité.
C'est vraiment l'expression de toucher avec les yeux.
Voilà, oui. Il y a quelque chose comme ça.
Et
donc aussi, il introduit une subjectivité dans ce type de rapport à l'image. Chez Alberti, c'était, comme le dit Panofsky, une objectivisation de la subjectivité par le modèle perspectif. Là, Léonard renverse la proposition. Et donc, il implique le spectateur dans un processus subjectif qui peut, comme vous le disiez, le perdre. C'est-à-dire que dans tout ce décor de rocher à l'arrière-plan, c'est pas fixe. C'est-à-dire, ça peut bouger. Le spectateur, par sa propre subjectivité, peut voir quelque chose, puis après autre chose.
C'est presque abstrait, en fait. Enfin, c'est pas figuratif au sens propre du terme. Il ne copie pas quelque chose.
Non, pas du tout. Oui, c'est une invention. Mais vous voyez, ça me fait penser un peu à la forêt de Blanche-Neige qui tout d'un coup se transforme. On y voit des mains. C'est totalement irrationnel. Mais il y a quelque chose comme ça dans tout ce découpage de l'ouverture à gauche, il peut y avoir... Enfin, la forme est comprise par Léonard comme mobile. Oui, elle est rendue mobile par la subjectivité que le spectateur investit dans la contemplation de l'œuvre.
Mais ça veut dire ce que vous dites l'un et l'autre, que le génie de Léonard, bien loin de moi la prétention d'en cerner les contours ou même de le définir, mais est certes une affaire de technique, mais aussi d'observation. C'est parce qu'il observe comment n'importe quel spectateur va regarder ce qu'il y a devant ses yeux qu'il peut le reproduire ensuite sur la toile. C'est-à-dire qu'il parle, c'est ce qu'on disait, il parle de l'expérience et non pas de la théorie. Et il essaie de reproduire sur la toile ce que l'observation du monde réel, du monde naturel, produit chez le spectateur. Tu progresses.
Oui, de ce point de vue-là, il y a une forme d'empirisme très assumée par Léonard de Vinci, qui se retrouve d'ailleurs, je pense, en tout cas dans le modelé des corps. C'est-à-dire que quand on observe la manière dont il rend la figuration des corps, vous avez évoqué tout à l'heure le sfumato, c'est-à-dire le fait que dans l'observation naturelle des corps, il n'y a naturellement pas de contour. Nous ne sommes pas délimités de manière stricte par rapport à notre milieu. Léonard lui-même reproduit cette absence de délimitation stricte. On est ici dans l'anti-Botticelli, par exemple. Botticelli aurait séparé cela par un tracé extrêmement net.
D'ailleurs, il n'aimait pas Botticelli, je crois, d'ailleurs, Léonard, non ?
Il y a quelques petits textes un petit peu critiques ou ironiques à son endroit, mais il y a des raisons biographiques à ça. Mais vous voyez, par exemple, ce qui est amusant pour Botticelli, c'est qu'on y voit un auteur très doux, alors qu'à l'époque, on qualifiait son style de viril. C'est-à-dire, c'était celui qui délimitait les corps avec une force qui suscitait l'admiration. Eh bien, Léonard prend le contre-pied, en effet, et va proposer des corps qui sont en continuité avec leur milieu et qui ne sont plus séparés les uns des autres par des contours artificiels. Et idem pour le modelé des corps. En fait, tout à l'heure, dans l'extrait sonore qu'on a entendu, il parle de la manière de passer progressivement de la lumière à l'ombre. Et en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit que les corps sont modulés justement par tout un tas de petites touches d'ombre qui vont créer justement le modelé, le volume et le rendu des corps et qui vont leur donner une consistance absolument hors du commun. Et l'admiration que nous avons souvent à l'égard des carnations de Léonard provient justement de cet entremêlement de l'ombre et de la lumière qui montre qu'il n'y a pas de rupture de nature entre les deux. En revanche, il y a des différences de degrés et le jeu de ces différences de degrés va créer le volume des corps. Et de ce point de vue-là, on a quelque chose qui est tout à fait admirable.
Guillaume Casquin ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On le voit notamment dans l'ange admoniteur qui, vous le disiez en introduction de l'émission, on ne sait pas s'il regarde l'enfant Jésus ou il nous regarde, mais c'est entre les deux. Il désigne quelque chose qu'il ne regarde pas et il détourne le regard vers nous qui regardons.
Mais sa main semble quasiment déconnectée de son corps, de toute façon. Vous l'avez dit, elle est disproportionnée, elle est très grande.
On
voit à peine l'origine du bras.
Voilà. Mais son visage est expressif, c'est-à-dire qu'il a cette crasse léonardesque qu'on voit dans la Joconde, hein, demi-sourire. Et donc, il introduit pas simplement un relais d'information, comme le souhaitait Alberti, en disant « ne vous trompez pas, voilà, c'est là où il faut regarder ». Et en même temps, il offre un visage séduisant. C'est-à-dire, c'est ça, cette richesse de la grazia chez Léonard. Parce que c'est comme on le fait avec les enfants. Si on désigne quelque chose, l'enfant peut regarder votre doigt plutôt que ce qu'on désigne. Et donc là, c'est ce qu'on a. On a un admoniteur qui est fait pour nous dire quelque chose. Et c'est lui qu'on va regarder, pas ce qu'il nous dit. Parce qu'il est gracieux, parce qu'il est séduisant. Ouais. Donc c'est ça qui permet un investissement bien plus complexe que celui qu'imaginait Alberti dans la peinture de l'époque.
Alors, quelle place pour le travail de la couleur avec ce que vous dites sur le sfumato? En fait, c'est l'ombre et la lumière que Léonard a beaucoup, beaucoup théorisé. D'ailleurs, on retrouve énormément de réflexions sur la différence, la distinction progressive entre l'ombre et la lumière. Mais les couleurs, quel rôle pour les couleurs? Elles sont uniquement symboliques? Parce qu'ici, on voit du rouge, du bleu, du jaune et assez flamboyant.
Alors, il y a eu dans la commande qu'avaient faite les franciscains, en fait, tout un tas de consignes chromatiques que Léonard n'a pas totalement respectées. Ça a pu contribuer d'ailleurs au rejet de la première version. Je vous disais tout à l'heure que la couleur n'est pas comme telle quelque chose qui peut se penser de manière absolue ou à part. La couleur n'a de sens qu'à l'intérieur d'un milieu. Elle va varier en fonction du milieu et elle va prendre justement son extension à partir des relations qu'elle établit à partir du milieu. Ce qui est extrêmement net entre les deux versions, c'est que dans la version de Londres, on a l'impression que d'une certaine manière, le thème de la version de Londres, c'est la lumière et la couleur elle-même. Il y a une telle luminosité de la Vierge, le bleu qu'il utilise entre en résonance avec les roches du fond, qu'on a presque l'impression qu'il y a un surgissement de lumière au centre, et on n'est plus du tout dans la même configuration, notamment grâce au jeu de la luminosité et au jeu de la couleur. Dans la première configuration, vous le disiez fort bien tout à l'heure, l'ange nous demande de regarder ce qu'indique le doigt, donc on est porté par un jeu de gestes presque théâtral à regarder un certain nombre de choses, alors que dans le second panneau, eh bien, on a affaire à quelque chose qui est véritablement saisissant du point de vue luministe et chromatique. Et c'est peut-être cela, en fait, le vrai thème de la seconde version.
Quel serait ce vrai thème de la seconde
version? La lumière et la couleur.
Oui, et la couleur. Oui, donc.
Ce ne serait plus que des éléments plastiques qui contribuent au thème, mais ce serait le thème lui-même.
Vous souscrivez, Guillaume Casquin?
Oui, en partie. En tout cas, on voit bien que...
Vous n'êtes pas obligé, hein?
Non, mais c'est pour pas... abonder dans un systématisme qui...
Mais vous n'êtes pas obligé d'être en désaccord non plus.
Non, c'est simplement, on le voit bien dans la version du Louvre, que la couleur joue a une fonction aussi quelque peu musicale, où, donc il y a le rouge de l'ange au premier plan, ponctué par rapport aux teintes grises de l'arrière-plan. Donc ça aussi, c'est ce travail sur le dynamisme de l'espace qui crée un effet de profondeur simplement par les illusions d'optique que les couleurs peuvent apporter. Donc dans la version de Londres, le bleu du manteau de la Vierge, qui est au premier plan, est identique au bleu du paysage qui est pourtant très très loin. Donc il y a des rapprochements ou des précipités qui proviennent des effets sensuels de la couleur, et on sait bien que c'est pas sur le même plan, mais visuellement voilà, il peut y avoir ces bouleversements ou ces précipitations d'un arrière-plan vers un premier plan ou d'un premier plan vers l'arrière-plan.
On sent que ça n'est pas qu'une ornementation, la couleur chez Léonard. C'est vraiment presque un sujet à part entière, en tant qu'elle est presque l'indice justement de la continuité entre les choses. Et dans l'espèce d'écho que trouve le manteau de la Vierge dans les roches du fond, dans la version de Londres, on a ce sentiment justement de continuité qui est exprimé par la couleur elle-même. Donc qui ne vient pas simplement orner le manteau, mais qui devient le cœur même du tableau.
Oui, ce qu'on voit là, dans les deux versions, hein, le manteau de la Vierge qui revient au devant d'elle.
Dans un mouvement très étrange d'ailleurs.
Voilà, qui est préservé aussi, protégé par le haut de son manteau. C'est-à-dire qu'elle crée une sorte de grotte à l'intérieur de cette grotte. Oui. Et il y a des plis, comme souvent chez Léonard, qui sont très étranges. Hein. Dans les deux versions, peut-être même plus dans celle de Paris, parce que c'est une sorte de modèle réduit de montagne dans le giron de la Vierge. Oui. Donc on aurait les rochers très grands derrière, et puis une miniaturisation de ces rochers dans les plis de ce manteau jaune de la Vierge.
Alors ça, c'est sans doute volontaire, puisque la Vierge, dans la tradition justement du protévangile de Jacques, est la pierre, elle est le symbole même de la pierre que seul Dieu a pu percer. Donc, si vous voulez, le rapprochement entre ce qui relève de la pierre et la Vierge elle-même est tout à fait justifié, et que peut-être, en effet, les jeux chromatiques permettent d'en rendre compte.
Giovanni, ouvre cette armoire. Donne-moi ce paquet là, dans le papier bleu. Il ne m'a jamais quitté. Tu as dû souvent te demander ce qu'il contenait.
Oui.
Eh bien, c'est un cadeau que ma pauvre mère m'avait apporté de Milan. Deux chemises de toile. Elle les avait tissées elle-même.
et trois paires de bas en poils de chèvre.
Qu'elle me pardonne. Je ne les ai jamais mis. Quand je serai mort, Giovanni, faudra me mettre tout ça pour que je n'aie pas froid.
Maître.
On est presque au terme de cette émission sur Léonard de Vinci. Il nous reste quelques minutes. Il était donc temps d'assister aux derniers instants de Léonard de Vinci, puisque nous fêtons cette année les 500 ans. Enfin, nous commémorons les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Pour reprendre ce qu'on disait en début d'émission, et ce qu'on a beaucoup dit cette semaine sur ce mystère, vous en parliez, Guillaume Casgrain, finalement, ça lui a nuit, parce que on en a fait après des scénarios un peu rocambolesques. On parle de Vinci l'insaisissable. C'est même le titre de cette série ici sur France Culture. Au fond, qu'on parle de sa vie ou de son œuvre, il n'y a pas grand-chose d'insaisissable. On n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui peut être le génie. On ne peut pas réduire le travail à un ingrédient, à une recette particulière. Mais on sait beaucoup de choses, tant sur l'homme que sur son œuvre.
Oui, oui, c'est pour ça qu'il est, en même temps un peintre qui s'inscrit parfaitement dans l'histoire de la peinture italienne du 15e et du début du 16e siècle. Mais il est vrai qu'il a, comme d'autres, sa singularité. Donc voilà, c'est une singularité qu'on peut trouver étrange, mais pas plus que d'autres.
Alors pourquoi un tel mythe autour de Vinci ?
Ah ça, c'est bien difficile à dire. Pourquoi la Joconde est devenue un tableau comme ça ? Parce que c'est pas un tableau, pas dire extraordinaire, mais de toute façon on peut plus le voir, il est invisible depuis des années, les gens qui viennent le voir, je sais pas ce qu'ils viennent voir, ça empêche de voir quantité de très beaux tableaux qui sont dans cette salle, il y a un magnifique...
Bah si, on peut le voir, mais il y a beaucoup de monde.
Oui, mais comment on voit un tableau comme ça, je veux dire, ça n'a aucun sens. Et puis c'est un portrait très classique, enfin... Bon, voilà.
Je ne me sens pas bouleversé par la Joconde.
Non, pas du tout.
Thibaut Grèce.
Oui, alors moi je suis un petit peu plus peut-être sensible à la Joconde ou à Léonard en général. Enfin, je vais dire quelque chose de très banal, mais je crois tout simplement que les attitudes des personnages, les regards des personnages, les fameux sourires, tout bêtement, je crois, intriguent la plupart des gens et donc donnent l'impression que Léonard dissimule, détient un savoir et qu'il y a une ironie derrière les personnages. Et dès qu'il y a une dimension ironique, on aime bien creuser, on aime bien imaginer qu'il y a quelque chose derrière ce que l'on voit. D'autant plus qu'on dirait qu'il y a un indice pour aller voir justement tout cela. Alors naturellement, après, les cadres un petit peu délirants qu'on a pu avoir dans certains scénarios récents sont un petit peu désespérants. Mais l'idée qu'il y ait une intrigue derrière tout cela me paraît quand même assez juste. Ne serait-ce que pour des raisons de représentation des visages et des sourires qui... C'est très banal, mais...
Ce que vous dites, c'est que c'est sans doute l'ironie qui lui est propre. Est-ce qu'on retrouve cette même ironie chez ses contemporains?
Botticelli a de l'ironie. D'ailleurs, ça orne le livre de Yankelevitch sur l'ironie. Et en première page, sur la couverture, c'est une Vénus ironique qui est représentée. C'est pas la même ironie chez Botticelli, puisque Botticelli, c'est l'inverse. C'est plutôt la silhouette qui se découpe de son monde et qui paraît en retrait ou en dehors même du monde, alors que chez Léonard, il y a beaucoup plus de continuité. C'est sans doute pas le même type de savoir ironique auquel ils font référence.
Guillaume Casgrain, vous avez écrit sur Michel-Ange, sur Jérôme Bosch, sur Tintoret, sur Roland Barthes, pas sur Vinci.
Non. C'est un peu le hasard.
C'est le hasard ?
Oui.
C'est juste ma question. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est parce que...
Non, mais il fait partie de ces très grands artistes auxquels il est toujours très difficile de s'attaquer. Michel-Ange, dont vous parlez, le livre qui vient de sortir, je l'ai fait par les textes de l'époque sur Michel-Ange. Parce que j'imaginais pas non plus travailler sur Michel-Ange. Il y a tellement de choses qui ont été dites que moi, ça m'effraie un peu. Et si je suis un peu sévère avec Léonard, c'est parce que j'ai travaillé sur Michel-Ange. Et Michel-Ange était agacé quand même.
Il faut choisir son camp, il y a quand même un peu une opposition entre les deux.
Voilà, c'est ça.
C'est les Beatles et les Rolling Stones.
Voilà, et Michel-Ange n'aimait pas visiblement Léonard, il n'aimait pas du tout la Grazia, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans La Vierge au Rocher, la main droite de la Vierge qui vient sur l'épaule de Saint Jean-Baptiste est reprise presque littéralement dans la main gauche de Dieu le Père dans la création d'Adam, dans la voûte de la Sixtine. Donc Michel-Ange a bien gardé.
Donc il l'aimait pas, peut-être le jalousait-il.
Oh non, Michel-Ange, je peux pas jalouser quelque chose.
Il y a un désaccord.
J'arriverai pas à vous faire dire du mal de Michel-Ange, j'ai bien compris.
Il y a un désaccord théorique aussi sur le primat de la peinture ou de la sculpture. Léonard fait vraiment primer la peinture sur la sculpture qui, à ses yeux, est beaucoup plus plastique et donc beaucoup plus à même de reproduire fidèlement la réalité naturelle du monde. Alors que, fondamentalement, Michel-Ange se pense comme un sculpteur et voit la peinture comme un art inférieur, relativement à la sculpture en tout cas. Donc il y a sans doute même un désaccord théorique très profond entre eux qui engage un rapport au monde qui est profondément différent. Je ne pense pas que Michel-Ange ait pour ambition d'être fidèle à la réalité naturelle.
Non, mais tout le charme, d'ailleurs, oui. ça l'agace progressivement. Là, oui. Les effets de perspective naturelle, les paysages. Michel-Ange disait que c'était pour les bonnes femmes, ça.
Oui.
Merci d'avoir participé à cette émission qui ne s'adresse pas qu'aux bonnes femmes. N'en déplaise à Michel-Ange. Peut-être reviendrez-vous parler de Michel-Ange à une autre occasion. Guillaume Casgrain, de vous, on peut lire, je cite donc ce livre sur Michel-Ange, Origine d'une renommée, c'est aux éditions Azan. Vous avez aussi publié votre thèse soutenue sous la direction de Daniel Arras sur les visions béatifiques à Venise, l'année dernière chez Actes Sud. Thibaut Grèce, on peut lire L'œil et l'intelligible, les essais sur le sens philosophique de la forme en peinture, en deux volumes aux éditions Quimet. Merci à tous les deux.
Merci. Merci.
Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Guillaume Ledu. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Léonard de Vinci. Demain, ce sera Vincent Delieuvin et Louis Franck qui viendront parler du Saint-Jean-Baptiste. D'ici là, si vous voulez réécouter l'émission, rendez-vous sur le site internet de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Si vous cliquez sur l'onglet Chemins de la Philosophie, vous pourrez réécouter l'émission en ligne et même la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.